lecture de la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et donc, les messages aussi vont dans ce sens. Ancien Testament, nous allons bientôt le clôturer, en tout cas dans les messages, nous avons déjà clôturé dans nos lectures, nous sommes déjà dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, j'espère que vous avez bien entendu cette chose qui est vraiment importante à entendre. L'homme est pécheur. Quand on lit l'Ancien Testament, c'est plus convaincu que nous, on ne peut pas. À chaque fois, on voit un Dieu qui aime son peuple, qui choisit un peuple, qui aime, nourrit, conduit. Il donne même des promesses à couper le souffle. Et pourtant, ce peuple choisi ne cesse d'être porté vers le mal. L'ingratitude, on parle même d'idolâtrie. Il y a toujours un manque de respect et d'amour pour Dieu. Et dans notre lecture, on se dit, mais il est temps que l'homme soit libéré de son problème, de ce problème intérieur, le péché. Et la Bible aussi nous montre à maintes et maintes reprises qu'il y a un Messie qui doit venir. Ce Messie viendra pour libérer, oui, du péché qui pourrit notre vie et nos relations. Dieu promet d'envoyer, en fait, et nous le comprenons après, Jésus-Christ, pour que nous soyons pardonnés et libérés pour toujours de nos fautes, pour vivre éternellement avec lui, dans un monde qu'il prépare où il n'y aura plus de mal, plus de souffrance, plus de péché, etc. L'Ancien Testament révèle donc que notre cœur est sale et que nous méritons tous la mort. Mais Dieu promet qu'il enverra le Messie qui nous sauvera de nos fautes. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Néhémie. Quel livre riche d'instructions pour nous. Le premier chapitre de ce livre me pousse à vous parler d'un sujet très important. Et je vous en supplie, soyons très attentifs, car c'est d'une haute importance. J'aimerais répondre à cette question. Comment devons-nous réagir dans ce monde où le péché mène à la ruine, fait des dégâts. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que nous vivons dans un monde d'instabilité. Il y a pauvreté, guerre, injustice, immoralité. Les infos nous rappellent ces choses sans arrêt. Cette semaine, il y a eu encore un attentat, cette fois-ci, Londres. Comment réagir? Comment réagir dans ce monde où le péché mène à la ruine? Voici une bonne réaction que nous trouvons dans le premier chapitre de Néhémie. Je vous invite à le lire maintenant. Néhémie chapitre 1. Nous allons lire le chapitre en entier. Récit de Néhémie, fils de Hakalia, la 20e année où Artaxerxès est roi de Perse pendant le mois de Kislev. Moi, Néhémie, j'habite dans la citadelle de Suse. Un de mes frères juifs, Anani, arrive de la province de Juda avec quelques hommes. Je leur pose des questions sur les juifs restés en vie après la déportation et sur la ville de Jérusalem. Ils me répondent, les anciens exilés habitent dans la province de Juda, mais ils vivent dans une grande misère et dans la honte. Il y a des trous dans le mur qui entoure Jérusalem. Et les portes de la ville ont été brûlées. En entendant ces paroles, je m'assois et je pleure. Pendant plusieurs jours, je reste dans une profonde tristesse et je jeûne. Je me mets à prier le Dieu qui est au ciel. Et je lui dis, ah, Seigneur Dieu qui est au ciel, Dieu grand et terrible, tu gardes ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements, tu restes fidèle à ceux qui t'aiment. Écoute-moi attentivement et tourne tes yeux vers moi. Écoute maintenant la prière que je t'adresse moi, ton serviteur. Jour et nuit, je suis en prière devant toi, pour nous, les Israélites, tes serviteurs. Je reconnais les péchés que nous avons commis envers toi. Oui, moi et mes ancêtres, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi. Nous n'avons pas obéi aux commandements, aux lois et aux règles que tu nous as données par ton serviteur Moïse. Souviens-toi pourtant de ces paroles que Moïse nous a dites de ta part. Si vous n'êtes pas fidèles envers moi, je vous chasserai un peu partout parmi les autres peuples. Mais si plus tard vous revenez à moi, si vous obéissez à mes commandements, si vous les respectez, je vous rassemblerai. Même si vous êtes en exil au bout du monde, je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour montrer ma présence. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton peuple. C'est nous que tu as libérés par ta grande force et ta puissance. Je t'en prie, Seigneur, écoute attentivement ma prière. Écoute la prière de tes serviteurs qui mettent leur joie à te respecter. Fais réussir mes projets. Permet que le roi montre sa bonté envers moi. En effet, je suis responsable de la maison du roi. Fin de notre lecture. Comment réagir dans ce monde où le péché mène à la ruine? Premièrement, prier avec sensibilité. Quand Néhémie, en tant que les anciens exilés qui habitent dans la province de Juda, vivent dans une grande misère et dans la honte, qu'il y a des trous dans les murs qui entourent Jérusalem et les portes de la ville ont été brûlées, ils s'assoient et ils pleurent. Ça commence là. Ils pleurent. Pourquoi Néhémie est-il autant bouleversé? Parce qu'il aime sa patrie. Des vies sont brisées. Les murailles qui symbolisent normalement la force et la paix ont des trous. Elles n'assurent plus la sécurité du peuple contre les attaques. Elles révèlent aussi en fait que la situation spirituelle du peuple de Dieu est au plus bas. Pendant plusieurs jours, Némé reste dans une profonde tristesse. Et vous l'avez dit, jeune. Je vais peut-être vous surprendre, mais cette attitude de Néhémie, maintenant là que nous venons de voir, se perd. Nous entendons tous des nouvelles, des mauvaises nouvelles, mais nous sommes peu à pleurer et à prier comme l'a fait Néhémie. Et moi le premier. Dieu veut que nous apprenions à prier. Les pleurs font partie de la vie chrétienne normale. Non, parce que j'ai déjà vu certains chrétiens qui croyaient que normalement, vu que la Bible dit qu'il faut être toujours joyeux, donc il y a une sorte de. Il y a une pensée qui est venue là dans l'esprit, pensant que normalement le chrétien est censé tout le temps sourire et tout le temps être joyeux. Quand on parle de la joie ici, on parle de se réjouir en Dieu, de qui est Dieu, de notre espoir, de notre espérance en Dieu. Donc c'est une joie qui demeure dans notre cœur, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des larmes face à la souffrance. Jésus pleurait devant Jérusalem. Nous voyons assez souvent Dieu s'attrister devant le péché, devant le mal. Quand est-ce que ça nous est arrivé de pleurer sur notre pays? Quand est-ce que ça nous est arrivé de pleurer face à la souffrance dans ce monde? Quand est-ce que notre cœur s'est rempli de tristesse face à l'Église persécutée? Au point que ça ne nous amène pas juste à être triste, mais ça va nous amener beaucoup plus loin, à prier. Quand est-ce que nous nous sommes attristés face à notre propre péché et le manque de réveil? Même si la Bible parle de joie, elle n'exclut jamais la colère face à l'injustice ou la tristesse face aux atrocités. Néhémie reçoit des nouvelles terribles. Il n'en parle pas rapidement, puis passe à un autre sujet, comme nous pourrions le faire facilement, n'est-ce pas? Nous pouvons écouter ou regarder les informations du jour, mais tomber dans une insensibilité terrible, car juste après la tristesse ou ce qui nous a choqués, nous ne prions pas. Dans la pensée, une chose où je me suis dit certainement qu'on manque de sensibilité à cause de pas mal de choses, mais une chose qui peut nous amener à manquer de sensibilité, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est les films que nous regardons aussi. Les films que nous regardons, quand on a l'habitude de regarder le sang, de regarder les guerres, etc., ces choses peuvent aussi jouer sur notre manque de sensibilité. On est habitué à voir ça. Et puis, quand on regarde des informations, c'est comme regarder un film. Nous vivons notre vie comme si tout allait bien. Qu'a fait Néhémie ? Il s'est assis. Il a pleuré. Il a pleuré. Et aussi, il a prié. Tellement intense qu'il s'est dit non, il faut que je jeûne. Et il a jeûné. Que faisons-nous aujourd'hui devant tant d'églises qui acceptent toutes sortes de compromis? Que faisons-nous quand le mal se manifeste de plus en plus? Que fait l'église? Est-ce qu'elle prie ou est-ce qu'elle dort? Nous prions peut-être comme un bon religieux qui fait son devoir avant de dormir. J'ai vu ça à la télé, bon, je vais le dire à Dieu. Puis nous passons très vite à notre sujet sans vraiment prendre à cœur et vraiment prendre le temps d'exposer le sujet à Dieu. Nous devons prier, mes amis, en étant vraiment sensibles. Plus nous serons en communion avec Dieu, plus nous partagerons sa douleur face au péché et à ses effets désastreux dans ce monde. La prière de Néhémie n'est rien d'autre que le cri perçant d'un homme déchiré, partageant la douleur de Dieu à l'égard de ses enfants rebelles. Que Dieu nous aide, que Dieu nous rende davantage sensibles pour que nous puissions détester ce qu'il déteste et partager sa douleur dans la prière, comme c'était le cas pour Néhémie et bien d'autres personnes dans la Bible. Comment réagir dans ce monde qui mène à la ruine? Prier avec sensibilité. Deuxièmement, prier en étant centré sur Dieu. Néhémie dit au verset 5, « Ah Seigneur Dieu, qui est au ciel, Dieu grand et terrible, tu gardes ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements, tu restes fidèle à ceux qui t'aiment. Wow. » Waouh. Néhémie commence sa prière en se souvenant que Dieu est grand, éternel, puissant, fidèle à ses promesses. Ce modèle de prière est présent dans toute la Bible, où Dieu est avant tout proclamé et admiré dans tout ce qu'il est. Même la prière que Jésus nous a laissée de notre Père, Jésus n'a pas dit de commencer « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour !» Mais notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Plus grand besoin, en fait, c'est que Dieu règne et que Dieu soit au centre. Dès le début, dans cette prière, nous disons que Dieu est notre Père, qu'il règne dans les cieux et que nous désirons qu'il règne aussi partout dans ce monde. Dans sa profonde détresse, Néhémie remplit son esprit et ses prières de la personne de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais quand je commence mes prières ainsi, ma foi se renouvelle. Ma prière change, car je ne me concentre pas premièrement sur ce qui ne va pas, mais sur la solution qui se trouve en Dieu. Nous avons tellement besoin de proclamer qui est Dieu, de méditer sur lui. Les titres que Néhémie donne à Dieu ne sont pas des formules qu'il répète comme ça, sans réfléchir. Nous devons commencer nos prières en proclamant qui est Dieu, en prenant le temps de proclamer. En prenant le temps de visualiser ce Dieu grand et redoutable qu'il est, qui règne et qui est puissant pour agir, pour qu'il habite et forme nos pensées et nos prières. Une manière simple qui peut nous aider à commencer nos prières ainsi, c'est la louange, n'est-ce pas? Il y a aussi la lecture de psaumes. Il y a des psaumes extraordinaires qui peuvent nous aider à être centrés sur Dieu. Tout simplement un chant que vous connaissez et que vous pouvez prendre dans votre temps de prière. Une autre manière que l'ennemi emploie pour mettre Dieu au centre de sa prière est de s'appuyer sur la Bible quand il va confesser le péché du peuple. Souviens-toi, verset 8, pourtant, de ces paroles que Moïse nous a dites de ta part. Si vous n'êtes pas fidèles, etc. Donc, il reprend un texte. Mes amis, commençons notre prière en proclamant Dieu. Appuyons-nous sur la parole et les promesses de Dieu. C'est tellement important pour que nos prières soient dominées par Dieu et sa volonté, afin qu'elle soit exaucée. Comment réagir dans ce monde où le péché mène à la ruine? Prions en étant centrés sur Dieu. Troisièmement, prier en confessant notre péché et ceux des autres. Alors, Néhémie sait très bien que l'état déplorable de Jérusalem est dû au péché du peuple. Et voici ce qu'il fait. Verset 6, écoute-moi attentivement et détourne tes yeux vers moi. Écoute maintenant la prière que je t'adresse, moi ton serviteur. Jour et nuit, je suis en prière devant toi pour nous, les Israélites, tes serviteurs. Je reconnais les péchés que nous avons commis envers toi. Oui, moi et mes ancêtres, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi. Nous n'avons pas obéi aux commandements, aux lois et aux règles que tu nous as données par ton serviteur Moïse. Néhémie ici aurait pu juste dire, c'est la faute du peuple, des ancêtres. Donc il n'avait pas besoin de faire cette prière. Mais il s'inclut dans cette prière. Il confesse ses péchés et les péchés du peuple. Comme l'a dit le théologien Henri Blocher dans un message qu'il a fait sur le livre de Daniel, je cite, « La solidarité est quelque chose de biblique. Je crains fort que notre individualisme de chrétien évangélique nous fasse oublier cette solidarité. Est-ce que nous nous sentons honteux, la honte au visage, pour les péchés de notre nation française? Avons-nous cette solidarité? Je n'en suis pas si sûr. Au lieu de critiquer ce qui se fait dans notre nation ou dans les églises, confessons les péchés dont nous sommes de quelque manière aussi solidaires. » Fin de citation. Confesser le péché de l'Église ou de la France comme s'il s'agissait d'une autre, en s'incluant dedans, c'est biblique. Ce n'est pas la seule fois dans la Bible qu'il y a une personne qui confesse le péché des autres en s'incluant. Vous vous rappelez qui a prié ainsi? Moïse? Jésus? Daniel? Josias? Confesser le péché des autres ne veut pas dire que les autres n'auront pas à se repentir, à confesser leur. Et on voit bien que dans le chapitre 9 du livre de Néhémie, le peuple a confessé ses péchés. Si nous confessons le péché d'une nation, c'est pour que Dieu agisse. C'est pour que Dieu agisse. Néhémie ensuite s'appuie sur la promesse de Dieu d'agir et de rassembler son peuple si celui-ci se repente. Donc, comment réagir dans ce monde où le péché mène à la ruine? Prier en confessant notre péché et ceux des autres. Et le dernier point, c'est prier avec supplication pour que Dieu agisse. Néhémie n'a pas prié juste quelques minutes. Je relis le verset 4. En entendant ces paroles, je m'assois et je pleure pendant plusieurs jours. Je reste dans une profonde tristesse. Et je jeûne. Je me mets à prier le Dieu qui est au ciel. J'étais dans un état de tristesse et à prier et jeûner plusieurs jours. Et aussi, au verset 11, je t'en prie, Seigneur, écoute attentivement ma prière. Écoute la prière de tes serviteurs qui mettent leur joie à te respecter. Fais réussir mes projets. Permets que le roi montre sa bonté envers moi. Il demande, il redemande. Néhémie fait une demande avec Dieu, à Dieu, avec insistance. Il supplie Dieu de pardonner pour restaurer son peuple et Jérusalem. Mes amis, nous devons apprendre à prier ainsi. Prier jusqu'à voir Dieu agir dans une situation. Prier ainsi, c'est prier une ou plusieurs fois. Aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, l'année d'après, on regarde la situation. Quand on voit quelque chose qui commence à changer, on s'en réjouit, mais on prie davantage parce qu'on veut voir Dieu agir davantage. Vous voyez ce que je veux dire? On est là et on s'attend à Dieu. On s'attend à voir Dieu agir. C'est aussi observer la situation de près, comme je le dis. Et pas juste prier et puis ensuite on laisse se juger et puis on espère et on passe à autre chose. J'ai bien peur que nous ne soyons pas très forts pour ce genre de prière. Nous sommes tellement impatients, n'est-ce pas? Moi, le premier. Dans cette génération, nous voulons tout de suite. C'est pour nous anormal qu'un ordinateur ou un téléphone portable fonctionne au ralenti, quoi. Une application qui ne s'ouvre pas, mais allez. Dans le domaine de la prière, nous sommes trop vite découragés parce que nous voulons tout de suite. Mais ce n'est pas ainsi que ça se passe. Bien sûr que Dieu commence à agir au moment où nous avons commencé à prier. Et ça, je le crois. Et bien souvent, il faut beaucoup prier avant de voir les changements. Combien de fois nous voyons dans la Bible des supplications et des supplications avant de voir la réalisation de prières. Et certainement, dans vos vies, dans ce que vous vivez, vous avez plein de sujets de reconnaissance et où vous avez vu Dieu agir dans cette situation. Il a fallu aussi beaucoup prier, combattre dans la prière. Une chose dans ce chapitre que j'ai trouvé intéressant, c'est que Néhémie devient lui-même la réponse de Dieu à sa prière. Est-ce qu'il le réalise pendant qu'il prie? Je ne sais pas. Mais il devient la réponse. Il demande la réussite de son entreprise à lui, parce que c'est lui dont Dieu va se servir pour le relèvement de son peuple et de Jérusalem. Et très souvent, la prière va nous pousser à l'action, les amis. Ce n'est pas tout de dire à Dieu d'agir dans telle ou telle situation. Dans la prière, Dieu peut nous révéler notre responsabilité. Aller vers une personne et lui parler de Jésus-Christ. Agir contre une injustice, etc. Quelqu'un disait, prier, c'est déjà agir. Mais prier, c'est aussi préparer son cœur à agir. Je vais conclure. Comment réagir dans ce monde où le péché mène à la ruine? Quatre éléments ici. Prier avec sensibilité. Prier en étant centré sur Dieu. Prier en confessant notre péché et ceux des autres, en particulier de notre pays. Et prier avec supplication. Pour que Dieu agisse. Mes amis, Dieu veut faire de grandes choses, ça c'est clair. Il a choisi de le faire en réponse aux prières de ses enfants. Mais sommes-nous conscients que c'est notre privilège et aussi notre responsabilité? Dans ce monde où le péché mène à la ruine, soyons dans la prière. Prions d'une manière intense. Prions jusqu'à voir Dieu agir dans notre vie, dans nos familles, dans nos voisins, collègues de travail, etc. Mais ne nous arrêtons pas là. Prions aussi pour l'Église, prions pour le monde. Quand nous entendons des infos, des informations à la radio ou à la télé, soyons sensibles. Soyons dans la tristesse. Mais restons plein d'espoir en Dieu. Prions avec confiance et supplions Dieu d'intervenir. Quand on regarde la suite de Néhémie, obéissance à Dieu. Il ne reste pas juste dans les larmes et puis bon, il va rien se passer. Il supplie son Dieu. Il cherche des moyens de trouver, il cherche des solutions. Il reste positif. Il reste confiant en Dieu. Donc restons plein d'espoir dans ce Dieu qui veut agir. Prions avec confiance. Supplions Dieu d'intervenir. Et j'aimerais vous laisser une promesse pour nous encourager pour prier pour la France, pour prier pour ce monde. La Bible dit ceci dans Habacuc chapitre 2 verset 14, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui leur couvrent. Dieu promet ici que toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Le jour viendra où le seul vrai Dieu sera reconnu. Il est important de continuer à prier en ce sens. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vais prier. Dieu notre Père, pardon pour notre manque de sensibilité et de prière, de supplication face aux péchés et aux atrocités dans ce monde. Pardon d'être autant centrés sur nous-mêmes et nos besoins. Nous t'en supplions, rends-nous sensibles à ton cœur. Donne-nous d'être sensibles à notre propre péché, mais aussi aux besoins de ceux qui nous entourent. Rends-nous sensibles à la misère du monde. Que cette sensibilité nous pousse à prier de manière plus intense, à confesser notre péché et ceux des autres. Et à te supplier.